Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Au Burkina Faso, le procès du coup d'État manqué de septembre 2015 a été ouvert puis reporté, sine die. En Guinée équatoriale, le principal parti d'opposition dissous, 21 militants condamnés, l'opposition réagit.
Tous les 147 personnes qui étaient emprisonnées depuis décembre 28 ont été torturées, mais torturées sérieusement.
En République démocratique du Congo, 15 personnes tuées dans des affrontements dans le Kasaï. Dans la Minute Éco, nous passerons par la Côte d'Ivoire avec une baisse des intérêts pour l'achat de logements sociaux, mais aussi Ronaldo au repos et inquiétude pour Neymar pour une semaine avant le PSG Real Madrid en Ligue des Champions dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Après son ouverture aujourd'hui à Ouagadougou, le procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso a été suspendu cet après-midi suite au retrait de tous les avocats de la défense. L'audience de ce mardi s'est déroulée en présence d'un dispositif sécuritaire exceptionnel. Jacques Aristide.
Les forces de l'ordre étaient positionnées sur un rayon de 200 mètres autour de la salle des banquets de Ouagadougou, un quartier huppé de la capitale burkinabé où le tribunal militaire a été délocalisé pour la circonstance. Toute circulation était bloquée. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveau présumé du coup d'État manqué, ont été acclamés par les partisans à leur arrivée. Au total, 84 accusés sont jugés, 66 militaires et 18 civils, pour la tentative de putsch du 16 septembre 2015, où des soldats du régiment de sécurité présidentielle, le RSP, avaient tenté en vain de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré, chassé le 31 octobre 2014 par la rue après 27 ans au pouvoir. Ce coup d'État manqué a fait au total 14 morts et 270 blessés pour Ossibi Joël, artiste et membre du Ballet Citoyen, un collectif qui a été à la pointe dans les mouvements populaires. Le pays a connu beaucoup d'impunité. Il dit espérer qu'à partir de ce moment, c'est l'heure de la vérité.
Au Nigeria, 2 soldats ont été tués, 4 blessés dans une embuscade attribuée à des militants de Boko Haram dans l'état du Borno. Par ailleurs, le gouvernement nigérian a annoncé qu'il avait mis en place un comité pour comprendre les circonstances de l'enlèvement de 110 élèves dans le nord-est du pays après l'attaque de leur école par des membres présumés de Boko Haram. En Mauritanie, la cour criminelle de Nouakchott a condamné 11 personnes à des peines de 5 à 10 ans de prison ferme pour avoir créé une cellule de l'organisation État islamique. Les membres de cette cellule ont été reconnus coupables d'avoir tenté de mettre en place des actions pour donner l'impression d'une forte présence de l'État islamique en Mauritanie lors de la tenue en juillet 2016 d'un sommet de la Ligue arabe à Nouakchott. En République démocratique du Congo, des affrontements dans le Kasaï central ont fait hier 15 morts, dont un militaire. Les combats opposaient une milice aux forces de sécurité. Eric Manirakiza.
Les miliciens Kamuina Nsapu ont mené une attaque surprise contre une patrouille de l'armée au chef-lieu de Lombelu, au Kasaï central. D'après les témoignages, la moitié des personnes tuées seraient des citoyens ordinaires. En revanche, André Capiola, chef de secteur, parle de 14 miliciens tués et un militaire. Il a affirmé que la population a fui dans la brousse malgré le retour au calme. L'armée estime que ces miliciens tentaient de voler les armes et des munitions afin de mener des attaques de grande envergure. La région du Kasaï central a basculé dans la violence en septembre 2016 à la suite de la mort d'un chef traditionnel, Kamuina Nsapu, qui s'était opposé au pouvoir de Kinshasa. Il avait été tué lors d'une opération militaire.
Et toujours en République démocratique du Congo, le policier Agbe Obed a été condamné à la prison à perpétuité pour avoir tué un manifestant anti-Kabila à Mbandaka, ville du Nord-Ouest. De plus, à Kinshasa, le policier qui avait tiré sur Rossi Mukendi, l'activiste du mouvement citoyen Collectif 2016, décédé dimanche, serait aux arrêts, selon le porte-parole de la police. Au Gabon, le gouvernement a accusé l'entreprise française Veolia de pollution sur son sol, alors que les deux parties sont en guerre depuis la résiliation par l'État le 16 février du contrat de Veolia qui distribuait l'eau et le courant dans le pays. Selon Alain-Claude Bilibinzé, le ministre de la Communication, il existe d'importants dégâts environnementaux sur les sites exploités par la SEG, la filiale de Veolia. Le gouvernement gabonais a résilié la concession de Veolia dans le pays le 16 de février dernier et l'entreprise avait dénoncé une expropriation brutale. En Guinée équatoriale, le principal parti d'opposition, Citoyen pour l'innovation, a été dissous et 21 de ses membres condamnés à plus de 30 ans de prison. Des détails, Anastasie Tudiech.
Les militants étaient poursuivis pour sédition, désordre public, atteinte à l'autorité et blessures graves à la suite d'échauffourées pendant la campagne pour les législatives de novembre. Le parti avait gagné le seul siège au Parlement non acquis au pouvoir. Sur les 147 militants en procès depuis mi-février à Mongomo, fief du président Teodoro Obiang-Nguema, 21 ont été condamnés. La peine de mort qui avait été requise, selon leur avocat, n'a pas été retenue. Mi-février, l'État équato-guinéen avait apporté un démenti formel au fait que le procureur aurait requis la peine de mort. Les accusés sont également condamnés avec leur parti, le CI, à verser 138 millions de francs CFA à l'État, selon la sentence lue à la télévision d'État.
Et nous y reviendrons dans la partie magazine. En Afrique du Sud, le Parlement a adopté une motion pour autoriser l'expropriation sans compensation des terres agricoles au profit de la majorité noire. L'heure de la justice a sonné, nous voulons retrouver notre dignité, a lancé Julius Malema, le leader des combattants pour la liberté économique. Son texte a obtenu le soutien de l'ANC au pouvoir qui détient la majorité absolue au Parlement. Et le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, c'est elle opposé à la réforme, estimant qu'elle met sérieusement en danger l'économie nationale. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a entamé une nouvelle tournée en Afrique. Il est arrivé hier en Algérie, première étape de sa visite qualifiée d'historique. Il a indiqué que l'Algérie est l'un des plus importants partenaires commerciaux d'Ankara dans la région et qu'il veut transformer leurs relations sur les plans militaires, sécuritaires et culturels. Après l'Algérie, où il se rend pour la troisième fois, le président turc se rendra en Mauritanie, au Mali et au Sénégal. Ankara s'efforce depuis plusieurs années d'accroître son influence sur le continent. Et la justice européenne a contraint l'Union européenne et le Maroc à renégocier certaines dispositions de leur accord de pêche qui violent le principe de l'autodétermination du Sahara occidental. L'arrêt de la Cour répond aux doutes exprimés par un tribunal britannique qui doit se prononcer sur une plainte de l'association de soutien à la campagne du peuple sahraoui pour le Sahara occidental.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a appelé le régime de Bachar al-Assad à accepter la trêve humanitaire décrétée par la Russie dans l'enclave syrienne de la Ghouta orientale. Le point avec Chérubin Dorsil.
Les trois groupes rebelles présents dans la Ghouta orientale, Aylak al-Rahman, Jaik al-Islam et Arar al-Kham, ont écrit au Conseil de sécurité pour accepter la trêve. Jean-Yves Le Drian, après sa rencontre à Moscou avec Sergueï Lavrov, son homologue russe, a dit que le régime de Bachar al-Assad devrait en faire autant. La trêve humanitaire annoncée lundi par le président Vladimir Poutine doit être effective ce mardi et pendant 5 jours, de 9h à 14h. Samedi, le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté à l'unanimité une résolution réclamant une trêve sans délai de 30 jours dans tout le pays, mais qui n'a pas été suivi des faits. Aussi, les factions rebelles dénoncent les violations de la trêve par le régime et ses alliés russes et iraniens. L'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte que dans la matinée, 25 obus ont été largués sur la Ghouta, près de Damas, tuant 2 civils.
En Russie, l'opposant numéro 1 au Kremlin, Alexei Navalny, convoqué devant un juge lundi prochain pour des manifestations non autorisées, a accusé les autorités de vouloir l'emprisonner en vue de la présidentielle du 18 mars. Déclaré inéligible en raison d'une condamnation judiciaire qu'il estime orchestrée par le Kremlin, l'opposant a appelé ses partisans à boycotter et à surveiller l'élection présidentielle. La dernière manifestation organisée par l'opposant a eu lieu le 28 janvier, réunissant des milliers de Russes à travers le pays. Aux États-Unis, un parlementaire s'est inquiété des velléités de l'administration américaine de signer un accord de coopération dans le nucléaire civil avec l'Arabie Saoudite, qui s'apprête à lancer la construction de plusieurs réacteurs. La signature d'un accord nucléaire entre Riyad et Washington permettrait notamment aux entreprises américaines d'exporter leur technologie nucléaire vers le royaume saoudien. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
En Côte d'Ivoire, le taux d'intérêt sur les prêts bancaires aux acquéreurs de logements sociaux baisse à 5,5%. Il était de 9,5% auparavant. Cette mesure permettra l'amélioration des conditions d'accès à l'habitat social. Le taux de refinancement a été réduit à 2%. Le déficit de logements est évalué entre 400 000 et 600 000 unités. Le gouvernement veut construire 150 000 logements d'ici 2020. Cette année, 10 000 logements sociaux devraient être livrés. Le Maroc veut négocier le renouvellement de son accord de pêche avec l'Union européenne. L'accord en vigueur arrive à échéance en juillet et permet à des navires de l'Union européenne d'avoir accès à la zone de la pêche du royaume. La Cour de justice de l'Union européenne a validé cet accord en précisant qu'il était applicable au territoire du royaume et ne concernait pas les eaux de la région disputée du Sahara occidental. Devant le Congrès, le nouveau président de la Fed, la Banque centrale américaine Jerome Powell, a décrit une croissance économique forte dopée par une politique budgétaire plus stimulante et promis d'autres hausses des taux graduels. Toutefois, l'inflation devrait monter cette année et les salaires accélérer. En revanche, la récente volatilité des marchés n'a pas altéré la bonne orientation des conditions financières.
C'est l'heure de la page sport. Bonsoir Nicolas Pino.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
Tout d'abord, Ronaldo au repos, une semaine avant PSG Real Madrid en Ligue des Champions.
Eh oui, l'entraîneur du Real, Zinedine Zidane, qui décide de mettre Cristiano Ronaldo au repos pour le match de ce soir contre l'Espagnol. C'est en ouverture de la 26e journée de la Liga et ce à une semaine du match retour de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. C'est la deuxième fois en trois matchs que l'entraîneur ne retient pas la star portugaise. Ronaldo était également absent du match remporté contre Leganés, c'était le 21 février dernier. Gareth Bale et Karim Benzema font eux partie des sélectionnés pour affronter l'Espagnol, qui n'est que 15e de la Liga, et ce à une semaine des 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre Paris.
Et au PSG, on s'inquiète pour Neymar.
Pour Neymar, il n'y a pas de décision d'opération. On va voir comment ça évolue dans les jours qui viennent, a indiqué l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery, au sujet de la blessure du Brésilien. On se souvient que Neymar est sorti dimanche soir sur une civière après s'être blessé tout seul à la fin du match, remporté contre Marseille 3-0 en championnat.
Suspension pour le Français Samir Nasri.
L'ex-international français Samir Nasri, sans club depuis son départ d'Antalyaspor en Turquie en janvier, a été suspendu 6 mois pour violation des règles antidopage. C'est ce qu'indique l'UEFA. Tout est parti du passage du joueur quand il évoluait à Séville. Dans une clinique nord-américaine, il avait communiqué sur un traitement intraveineux de vitamine, méthode prohibée par l'Agence mondiale antidopage, comme le rappelle l'UEFA.
Et pour finir, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Pelicans de la Nouvelle-Orléans ont poursuivi hier soir leur belle série de victoires en battant les Suns de Phoenix 125-116, porté par Anthony Davis en grande forme, auteur de 53 points, le plus haut score de la saison. Dans les autres matchs, Golden State a surclassé les Knicks de New York 125-111, avec un festival commun de Klay Thompson et de Stephen Curry. De leur côté, les Raptors de Toronto ont remporté leur 7e victoire en 8 matchs, en battant Détroit 123-94.
Merci beaucoup Nicolas Pino.
Bonjour, c'est Nicolas Pino. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. A très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En Guinée équatoriale, le principal parti d'opposition Citoyen pour l'innovation vient d'être dissous. Le parti sera retiré du registre des partis politiques du pays. C'est ce qu'a indiqué José Raphaël Nguema, président du tribunal de Mongomo. Les nombreuses condamnations inquiètent l'opposition. John Lindon a recueilli la réaction de Tutu Ali Kante, opposant équato-guinéen exilé aux États-Unis.
Le cas contre le parti, ça montre l'injustice en Guinée équatoriale. C'est un parti qui vient de gagner un seul assis sur le congrès en Guinée équatoriale. Mais malgré ça, maintenant ils sont dissous. C'est une injustice qu'on ne peut pas qualifier ici parce que c'est 147 personnes qui étaient jugées. À la fin, c'est 34 personnes qui sont maintenant condamnées à 44 ans de prison.
Quelle est, de manière générale, la situation de l'état des droits de l'homme en Guinée équatoriale aujourd'hui?
Tous les 147 personnes qui étaient emprisonnées depuis décembre 28 ont été torturées, mais torturées sérieusement. De telle façon qu'au moins un d'entre eux, M. Santiago Ebe, était mort en janvier après la torture. On sait quand même qu'il avait des femmes enceintes, il avait des enfants, il avait des vieux qui ont été brutalement torturés. Donc, ça te montre ce qui se passe toujours en Guinée, pourtant les droits de l'homme. C'est un pays là où on ne peut pas parler parce qu'on va t'arrêter, on va t'emprisonner, on ne peut pas être un membre de l'opposition, on ne peut rien faire.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cet état des choses change?
Quand la communauté internationale travaille ensemble, quand il y a des politiciens ici aux États-Unis, en Europe, en Afrique, qui dénoncent les violations des droits de l'homme, qui mettent la pression sur Obiang, c'est ça qui fait changer la situation dans un pays. Il y a aussi maintenant M. Yaya Jammeh du Gambia qui est en Guinée équatoriale. Ça, c'est un problème que toute l'Afrique doit dénoncer. C'est toute l'Afrique qui doit dire on ne veut pas que les dictateurs, après qu'ils quittent le pouvoir, après d'avoir commis des crimes terrible dans son pays, il va se cacher en Guinée équatoriale. Donc, il faut que la communauté internationale, il faut que tous les Africains, que l'Union africaine soit là pour protéger les droits de l'homme, soit là pour protéger la dignité des gens en Guinée et partout.
Tutu Ali Kante, opposant équato-guinéen exilé aux États-Unis.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur le lac Tchad qui lie le Sahel et l'Afrique centrale. Une conférence internationale a se tient cette semaine à Abuja pour sauver cette région dévastée par le changement climatique, la famine et les conflits. Le lac Tchad est-il en danger de disparition? Où en est-on avec le méga projet de remplir le lac? L'enjeu sécuritaire est-il en train de corser la grave crise humanitaire qui touche la région? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
Nouveau scandale au sein des Nations Unies. Plusieurs casques bleus ghanéens en poste au Soudan du Sud ont été accusés d'avoir monnayé des rapports sexuels. 46 soldats ont été placés à l'isolement en attendant les résultats de l'enquête. Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibour a joint une porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Charlotte Larbuisson.
Le 8 février, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud a reçu des informations indiquant que certains membres du contingent ghanéen de police auraient eu des rapports sexuels monnayés avec des femmes qui vivent au site de protection des civils de l'ONU à Wau. Une enquête a immédiatement été lancée par le Bureau des services de contrôle interne, qui est un bureau indépendant au sein des Nations Unies. Le chef de la mission, David Shearer, a été briefé sur l'enquête préliminaire le 22 février et il a pris immédiatement la décision de retirer l'unité de police qui comprend 46 membres au complet de leur poste et l'unité a été rapatriée à Djouba au cours des deux jours qui ont suivi. L'information qu'on a indique donc qu'il s'agit de rapports sexuels monnayés. C'est une violation claire du code de conduite des Nations Unies pour lequel c'est tout à fait interdit d'avoir la moindre relation sexuelle avec des personnes qui sont vulnérables et qui bénéficient de notre assistance.
Est-ce que c'est la suite de la nouvelle politique, notamment mise en place par le nouveau secrétaire général, la politique de tolérance zéro face aux abus et aux exploitations sexuelles ?
Oui, alors évidemment, le secrétaire général s'est engagé dès son arrivée à éradiquer complètement ce comportement, tout à mettre un terme à l'exploitation et aux atteintes sexuelles. Il estime que l'ONU doit jouer un rôle dans la définition et la mise en œuvre des normes à ce sujet-là. Donc il a élaboré une stratégie pour mettre un terme à ces actions-là, qui comprend différents piliers, si on veut, l'attention... Qu'on doit donner la priorité au droit et à la dignité des victimes, mettre un terme à l'impunité, mobiliser la société civile et les partenaires et améliorer la communication stratégique et favoriser l'éducation et toute la transparence qu'on fait, la transparence sur ce travail-là. Donc évidemment, oui, ça fait partie de cette stratégie et d'ailleurs la mission a réagi extrêmement rapidement et de manière assez décisive. Donc c'est tout à fait dans ce cadre-là.
Charlotte Larbuisson, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le 26 septembre 2002, le ferry sénégalais le Djoula faisait naufrage au large de la Gambie, faisant près de 2000 morts. Pour rassurer les passagers et faire oublier le drame du Djoula, un consortium sénégalais assure la desserte vers la Casamance. Le bateau, Aline Setoué Diata, assure désormais la navette. C'est Dina Bagué, envoyée spéciale à Ziguinchor.
C'est un gros investissement qui a été consenti pour rétablir la liaison maritime Dakar-Ziguinchor et favoriser la destination Casamance. Présent sur la ligne depuis 2008, le capitaine Diallo est commandant de bord depuis 2014. Il assure de la fiabilité du navire.
Avec la psychose au début, c'était pas facile, c'était pas évident. Mais maintenant, avec le temps, les passagers se sont habitués. Ils ont commencé à faire confiance à cette liaison, à cette desserte, car tous les moyens de sécurité sont là sur place. Et notre credo actuellement, c'est la sécurité pour les passagers. Depuis ce temps, vous voyez, on a mis tous les moyens, aussi bien dans la formation que dans le recrutement du personnel navigant. On a pris les marins les plus qualifiés presque au Sénégal. Tout ça, c'est pour assurer la gage de sécurité qui existe actuellement dans le milieu maritime.
Abdoulaye Mbaye voyage tous les 15 jours à bord du bateau Aline Setoué Diata. Il le juge plus sûr que le Djoula.
Sur ce bateau Aline Setoué Diata, non seulement nous avons la sécurité, mais aussi nous avons le confort. Donc c'est totalement différent avec celle du bateau Djoula. Parce qu'avant, je me souviens bien que le billet était à 3500 et tu le prenais soit au quai du bateau ou bien après avoir embarqué. Ceux qui étaient en retard peuvent prendre le billet dedans et faire le voyage. Nous voyons que ce n'était pas bien organisé ou ce n'était pas du tout sérieux.
Le bateau est également sécurisé et escorté pour parer à toutes les éventualités, notamment celle du terrorisme, comme l'atteste le commandant Diallo sur VOA Afrique.
La sécurité commence déjà au niveau de la billetterie. Il y a un système qui est ouvert. Chaque voyage a un numéro. Chaque navire a un nombre de places limité. Maintenant, si dans le système on atteint le nombre de places, déjà le système se ferme, se bloque pour passer à un autre voyage. Le parcours est suivi depuis Dakar jusqu'à Ziguinchor. Il y a la marine nationale qui est avec nous. Il y a Elenkin, la base militaire qui est avec nous. Dans le fleuve, on est tout le temps accompagné. Méditerranée. On est tout le temps suivi. Durant les heures de manœuvre, d'accostage, appareillage, il y a tout le temps les vedettes de surveillance qui sont tout le temps là.
Malgré le récent regain de violence à Casamance, les touristes continuent à affluer vers le sud du Sénégal. Baptiste est un jeune Français originaire de Bordeaux qui a choisi le bateau pour découvrir la verte Casamance. Il juge le voyage convivial.
Nous, on a entendu en France ce qui s'était passé il n'y a pas très longtemps, mais ça ne nous a pas refroidi. On fait confiance à la sécurité sénégalaise et ça ne nous a pas fait peur pour venir. Ça s'est bien passé, on a mis du temps pour les billets pour enregistrer les bagages, mais une fois sur le bateau, il y a une bonne ambiance, les gens sont sympas, on a bien dormi, on a bien mangé et non, ça se passe très très bien. J'ai hâte de découvrir et de rencontrer les gens, pouvoir discuter avec eux et voir les beaux paysages.
Plus de 15 ans après le naufrage du bateau Le Diola, la liaison maritime demeure primordiale pour le désenclavement de la Casamance. Zone à fort potentiel touristique, le sud compte principalement sur la liaison maritime pour relancer l'économie et le tourisme. À Ziguinchor, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h sur Universal dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Simsonou Mami à la mise en onde, Bill Barber à la console, Raïssa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de la gouvernance du Nigeria bénéficieront d'une nouvelle aide des États-Unis. L'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, a annoncé une enveloppe additionnelle de 89 millions de dollars en faveur du Nigeria. Cet appui vise à poursuivre le soutien aux objectifs prévus dans l'accord d'assistance aux objectifs de développement signé en 2015 par le gouvernement américain et nigérian. Près de la moitié de nouveaux fonds, soit 44 millions de dollars, soutiendra la lutte contre le VIH-SIDA à travers le plan présidentiel d'urgence contre le SIDA, le PEPFAR. Le reste aidera le nord-est du Nigeria à accroître la productivité agricole, la croissance économique et la résilience à travers l'initiative Feed the Future du gouvernement américain. Il s'agit aussi de renforcer l'éducation, soutenir la bonne gouvernance et améliorer les infrastructures d'adduction d'eau et d'assainissement. Les nouveaux fonds porteront à 808 millions et demi de dollars l'aide du gouvernement américain au Nigeria sous le plan d'assistance étalé sur 5 ans. L'USAID a collaboré avec le ministère nigérian du budget et de la planification nationale, ceux de la santé, de l'agriculture, de l'énergie et de l'éducation et leur homologue au niveau des États pour notamment structurer l'accord bilatéral d'assistance qui court jusqu'à 2020. En plus des fonds d'appui au développement, les États-Unis fournissent une assistance humanitaire aux personnes affectées par le conflit en cours au Nigeria ainsi que la sévère insécurité alimentaire dans la région du lac Tchad. Le gouvernement américain, sous la conduite de l'USAID, a octroyé plus de 526,7 millions de dollars d'assistance humanitaire depuis 2017 et continue d'être le plus important donateur humanitaire bilatéral dans la région. Cette nouvelle assistance souligne l'importance continue des relations entre le Nigeria et les États-Unis, a déclaré Julian Conan, administratrice adjointe de l'USAID au Nigeria. Notre solide partenariat avec le Nigeria et ses institutions renforcera les efforts du Nigeria en vue d'améliorer ses systèmes de santé, d'éducation, de gouvernance et son agriculture dans les zones du pays où ils sont les plus nécessaires.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.